Welcome to the third episode of the Indigenous Hour. This is your host, Oliver Lode, and we are podcasting today again for the second time from our temporary New York studios at the Vienna Cafe of the UN headquarters. The noises that you hear there, this is an espresso machine brewing coffee for UN diplomats and indigenous peoples, leaders. But we are here because currently the 16th session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues is taking place right around here. And today's guest is the current and new chair of the Permanent Forum, Mariam Walet Aboubakri. We are very fortunate that she found time from her busy schedule. So welcome to the Indigenous Hour, Mariam.
Merci. Thank you, Oliver. Good morning. Je suis là aujourd'hui. Mon nom, comme me l'a présenté Oliver Loud et Mariam Walet Aboubakri, Talasem. Bienvenue à la 16e session de l'instance permanente des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
So, thank you for introducing me. I'd like to welcome you to the 16th session of the Permanent Forum on the Rights of Indigenous Issues.
So before we start our conversation, maybe just a few things about Mariam from my experience. Mariam was my colleague during the previous Permanent Forum term, and I would say that she was one of the more committed members of the forum, who often kind of went the extra mile. And I remember very well how at the beginning of 2016 you attended the expert group meeting on indigenous languages, and even though you are, you know, your professional background is medicine, you really had done the homework, having read academic literature about indigenous languages revitalization. You had a very substantive speech, and I think this just showed the kind of rigor that you bring to this work at the Permanent Forum. And I think you also did effective advocacy on behalf of your own people and region, and we'll talk more about that later. And also, I remember you as one of the most diplomatic and courteous members towards other fellow forum members and colleagues. So I think everybody appreciated that, and I'm really very glad about your new role. So congratulations.
Merci Oliver de me jeter toutes ces fleurs. C'est vraiment très apprécié et merci.
Thank you, Oliver, for all these compliments. Much appreciated.
Okay, so one week has passed when you've been chair of the Permanent Forum. How do you feel about this 1 week? Are you enjoying yourself?
Oui, c'était une semaine assez chargée. Vous savez, en tant que présidente, il y a vraiment beaucoup de défis à surmonter. C'est un nouveau rôle pour moi. Je ne suis pas habituée à être présidente. J'ai toujours été experte membre. J'ai toujours eu le rôle d'experte membre, mais là, être présidente, ça fait autre chose. On doit à la fois gérer les sessions, mais aussi gérer les rencontres informelles et formelles avec d'autres personnes, aussi bien ici aux Nations Unies, mais aussi à l'extérieur. Donc, ce qui donne un emploi du temps très chargé.
Yes, it has been indeed a very busy week. As a president, as a chair, there's lots of new challenges to overcome. I'm not used to being a chair. I used to play the role of an expert member for many years, but this is a new role for me. Not only do we have to manage sessions, but we have to also organize informal and formal meetings, not only in the UN, but also outside. So it's a very busy role.
Yeah. What has been the highlight of this week so far for you?
Jusqu'à présent, la première semaine, vous savez, c'est la semaine qui est la plus intense. Et c'est là où il y a plus de participants, comme vous-même, vous êtes en train de partir. Donc, tout le monde veut amener les questions et ses préoccupations. Mais jusqu'à présent, ce que je note, ce que je souligne, ce qui a vraiment marqué la première semaine, c'est l'ouverture, la cérémonie, la commémoration du 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Également les discussions riches qui ont eu lieu, par exemple, sur l'autonomisation des femmes et des jeunes autochtones, les allocutions de différents délégués qui sont venus, par exemple, ceux de certains peuples autochtones qui n'ont pas vraiment le droit de s'autodéterminer comme tels, mais qui sont venus, ou des peuples autochtones qui ont des droits brimés alors qu'ils sont dans des pays qui se disent respecter les droits de l'homme.
The first week was very busy, lots of participants, many people coming and going the first week. We've heard a lot of people express their concerns. But overall, what really stuck out from this first week was the opening speeches, the commemoration of the 10th anniversary. There's also a lot of speeches given by indigenous peoples. We talked a lot about the emancipation of women and youth. Also a lot of statements by indigenous peoples whose rights have been violated, even though the states in which they live claim that their rights are being respected. Mm. Okay. That was the week overall. Mm.
So you are one of the three members of the current term who is carrying over from the previous 3 years. So probably a lot of things have changed, mostly because of new members coming in with new ideas and a new goal. So based on this, let's say, well, basically you have attended the pre-session all in Canada, now, you know, 1 week working here in New York. How would you compare this, this term with the previous one?
Alors, il est trop tôt pour comparer les deux termes, mais jusqu'à présent, oui, les nouveaux membres sont porteurs de changements. Nous avons, par exemple, comme vous l'avez constaté dans l'organisation de la session, nous avons décidé de réduire le temps de parole à 3 minutes pour pouvoir permettre à tout le monde de parler, mais également de ne pas avoir une inéquité dans le temps de parole, parce qu'on a constaté que quand on se dit que c'est nous-mêmes qui allons arrêter la personne au bout de ces 3 minutes, parfois nous sommes tentés d'être plus cléments avec d'autres personnes qu'avec d'autres. Également, qu'est-ce qui a marqué quels sont les changements? Nous avons décidé durant ce terme de tenir des sessions, par exemple les sessions de groupes d'experts, les rencontres de groupes d'experts qui ont généralement lieu en janvier, de les tenir en dehors de New York, donc dans un des États, dans les régions. Ça peut être en Asie, en Afrique ou en Amérique du Nord, mais pas ici à New York. Ça, c'est un fait. Et puis, on a aussi déterminé des domaines prioritaires comme les terres, territoires et ressources naturelles des peuples autochtones. On a également prioritisé, par exemple, le consentement le préalable et clair. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Jusqu'à présent, on a décidé de s'enligner, d'enligner notre programme avec l'agenda pour le développement 2030. Mais ça, ce sont juste les grandes lignes de ce qu'on voudrait faire. C'est ça.
So it's way too early to compare and contrast with the early years. But we do have new members who bring a wind of change. And what we've mostly decided is to reduce the time allocated to people when they give statements to 3 minutes. We've realized that in the past, we were kind of, it was hard for us to say to people, you know, you have to stop. And sometimes we're a bit more lenient towards people who speaking. So we've decided, in the name of fairness, to limit this to 3 minutes. We've also decided to organize expert group meetings, not necessarily in New York, but in other regions, in Asia, in North America, and not in New York. We've also given more priority to land, territories, and natural resources of indigenous peoples. We've also put the priority on the free, prior, and informed consent. And we're also aligning our agenda with the Agenda 2030. So these are the highlights of this year's new changes.
Étant donné, par exemple, la dernière phrase que tu dis, c'est étant donné que l'instance permanente est un organe subsidiaire du Conseil économique et social et que le Conseil économique et social a décidé, a recommandé que ces organes subsidiaires aillent dans le sens du développement de l'agenda pour le développement 2030. Enfin, concernant ce point, je le remercie beaucoup, lui et tous nos collègues précédents qui ont contribué au changement dans les méthodes de travail de l'instance permanente. Et nous utilisons, c'est un outil qui est très utile pour nous et nous, en tant qu'anciens membres, plaidons beaucoup pour la continuité de ces méthodes de travail qui nous rendent plus, qui montrent notre redevabilité, notre responsabilité envers nos engagements ici à l'instance permanente.
Mm-hmm. So the Permanent Forum is, since it's a subsidiary body to the ECOSOC and it answers to the ECOSOC, and one of the priorities of the ECOSOC was to focus on sustainable development, this is why we're aligning our program with the Agenda 2030. We've also, I'd like to thank you as well because you've brought up different methods of work which are very useful for us, and it allows us to to give accountability to the people we represent.
Well, thank you. So one aspect that makes this year's forum a bit different is that it's coinciding with the 10th anniversary of the UN Declaration, and also this is, you know, partly reflected in the discussions of the forum, but also last week there was this high-level meeting dedicated to the 10th anniversary of the Declaration, where you also spoke behind the podium of the UN General Assembly, representing the Permanent Forum. So what do you think about that event? Was it just ceremonial, or do you think it had some impact or can have some impact? Because for me personally, it looked like states basically came and, you know, defended what they're doing, and it was very, very politically correct for the most part, I really personally didn't sense that this event will change anything, but maybe this is just because of, you know, lack of knowledge. So I would be quite interested in your views about that.
Bon, ça dépend. Je trouve que c'est un événement parlant. Ça donne en matière de visibilité déjà. Il y a un chef d'État qui a fait le déplacement, qui est venu pour montrer que la cause autochtone vaut la peine. Donc, on en a parlé. C'est vrai qu'on a fait du tapage, comme plus de publicité, mais c'est une publicité que je trouve promotive. Donc, c'est la promotion de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et donc des droits des peuples autochtones. C'est vrai que d'autres éléments auraient pu être faits, comme par exemple apporter des résultats concrets ou des choses comme ça. Mais ça aussi, ça a eu lieu pendant la session. Nous avons eu une sorte de bilan. Il y a des États qui sont venus, pas à cet événement de haut niveau, mais ici, même à l'événement de haut niveau, le Canada, par exemple, avait annoncé de retirer son opposition aux articles sur le consentement préalable, libre et éclairé. Donc ça, c'est une bonne chose et ça donne un exemple pour les autres pays. Par ailleurs, ici dans la salle plénière aussi, on entend les bonnes pratiques et les défis. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'États qui viennent nous dire « j'ai fait ça », mais sans nous donner des données exactes. Mais c'est à travers ce genre de dialogue, parce que le forum, c'est avant tout un espace de dialogue. C'est à travers ce genre de dialogue qu'on va aller de l'avant. On va entendre, il y a peut-être des États qui n'ont rien commencé, mais ils entendront ça. Ça va sonner dans leurs oreilles. Et puis, ce n'est pas seulement les États qui sont les acteurs dans la mise en œuvre de nos droits. Nous aussi, nous sommes des acteurs. Et il y avait beaucoup de peuples autochtones qui vont se dire, mais nos droits sont aussi importants que nous en parlons. Et qu'est-ce que moi j'aurais pu faire chez moi, mais que je n'ai pas pu faire? Ah, le groupe Asie, il a fait ça, mais qu'est-ce que moi j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des leçons acquis partagées et ça sert beaucoup. Aussi pendant les événements parallèles, nous avons eu des événements parallèles d'État qui sont venus pour nous dire comment est-ce qu'ils ont déjà commencé à mettre en œuvre la déclaration avec le plan d'action à l'échelle du système à leur niveau. Donc, j'ai par exemple eu une discussion avec la défenseure nationale du Mexique. Elle a fait un excellent travail sur la mise en œuvre de la déclaration en offrant des services judiciaires à des peuples autochtones sans frais et en se déplaçant, en allant à l'encontre de la limite géographique. Donc elle déplace ses équipes dans les coins les plus reculés où il y a les peuples autochtones.
So the biggest advantage, the biggest, the nicest thing about this commemoration is that it increases visibility for the UNDRIP. You have a lot of states that came, not every state came, but a lot of states came and highlighted the issues facing indigenous peoples. But the takeaway is that this has increased the publicity for the indigenous issue, for indigenous issues. Now, of course, we would like to see states talking about more concrete actions we're taking to implement the UNDRIP. But we also saw that a lot of countries have participated in this high-level meeting. Canada was here, and they actually said that they would no longer be opposed to the FPI consent, the free and prior and informed consent. And other states also assisted at this event. Now, we want countries or states to be coming here to offer more precise data on how they're implementing indigenous rights. But this is really a form of dialogue where people can come together, and by coming together we can make progress. And states have influence in other states, so when one state does something, another state could hear what's happening and actually model that state in furthering indigenous human rights, indigenous rights. And let's not forget that states are not the only actors. You also have indigenous peoples who come and participate to this high-level meeting, and they ask, well, you know, fellow indigenous peoples have done this. What could I do? What could I do to change and to further indigenous issues? There are also a lot of side events where states participated in, and they spoke widely of what they could do. They've also spoke about the system-wide action plan that we're trying to implement. And I've personally met with a human rights advocate from Mexico who did a lot in her country. She's offering free legal services to indigenous peoples, and she's really crisscrossing the world, meeting indigenous peoples and furthering the cause.
Okay, excellent. So in the next segment, we will be talking about your people. So that means Tuareg and Amazigh. Yeah. So maybe a nice way how to introduce that would be by playing some music. And who are we going to listen to now?
Tinari Win Taliat.
Indigenous Hour. Our guest today is Mariam Wallet Abubakrin, new chair of the Permanent Forum on Indigenous Issues. And let's talk now more about your community and later also yourself as well. So can you just say, how do you yourself identify ethnically? What is your ethnicity?
I am Tamashak.
Okay.
Tamashak is how Tuareg people name themselves. So I am Tamashak.
So you are Tuareg for, let's say, a Westerner or you know,
yes,
international.
But, yeah. Mm-hmm. But we call ourselves Tamashak or Kel Tamashak. It means those who speak Tamashak language. That's very thoughtful about how our language is important for us.
Yeah, thank you, Lois, for speaking also in English. So have we switched the language or have we not? No, that's good. Is that Amazigh language or is it a dialect of Amazigh?
Tamashak, c'est une des langues Amazigh. Ça dépend de la définition de langue. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de discussion parce que nous, pour moi, étant donné que Tamashak est une langue qui a une écriture, c'est une langue. Et parce que l'Amazigh, c'est la grande famille. Et puis après, il y a des langues, il y a différents peuples au sein des Amazighs.
So Tamasha is one of the Amazigh language. I won't go into the details of, you know, what's a language or not. But because my language is written, for me, it is a language. And Tamazir is like an umbrella that represents many different languages.
What would you like people around the world, including indigenous activists and rights defenders, to know about your people, the Tamashak?
Le Kel Tamashak, c'est un peuple qui vit entre au Sahara et au Sahel. Nous sommes des pasteurs nomades et nous faisons partie de la grande famille des Amazighs. Amazigh, c'est le masculin des Amazighs. Pour tous les peuples Amazigh, on les appelle Amazighs. Et nous vivons au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Algérie, en Libye et au Niger. Est-ce que j'ai dit Niger?
So the Tamashek are people who live in the Sahara and the Sahel. We are nomad pastoralists, and we are part of the big family of the Amaziren. And we live in Mali, we live in Niger, we live in Burkina Faso, Algeria and Libya.
Nous sommes un peuple qui a été divisé parce que cet espace était notre espace, et on a été, suite à la colonisation française, on a été divisé. Notre espace a été divisé dans des petits pays, dans des pays, et on s'est retrouvés comme des minorités dans ces pays-là.
After the French colonization, we were divided in different areas. And so we live throughout all these countries, but we're divided.
And what would you like to emphasize or highlight from your people's, you know, cultural heritage or customs, or something that you think make your people truly unique in a way?
Alors, ce que je voudrais mettre en lumière sur mon peuple, c'est que contrairement à l'image qui essaye de se construire de mon peuple aujourd'hui, c'est que nous, par exemple, dans notre culture, une manière de résoudre les conflits ou de répondre aux délits très pacifistes dans notre communauté. Par exemple, quand quelqu'un commet un délit, au lieu de le mettre en prison ou de traiter ça d'une façon violente, nous agissons d'une autre façon. Par exemple, son nom est chanté ou on lui exprime l'ampleur de son délit par des poèmes portés par des femmes, par des griots, parce que nous avons des griots. Les personnes qui chantent chez nous, c'est des griots. Donc, toutes ces personnes lui véhiculent le message et cela est suffisant pour que la personne soit punie et soit elle va changer de comportement dans la société ou elle va complètement quitter la société. Mais on n'utilise pas, par exemple, d'armes ou bien de prison comme c'est fait ici aujourd'hui.
Something I would like to shed light on our people, and this is not the way we're portrayed in the media. Our culture has a very specific way of resolving conflict. Instead of sending people to prison or using violence, we have different ways. We use poems sang by Creole and women, as well as women, who try to convey a specific message to him so that he can change his ways. So we really do not use weapons or violence when it comes to people who have committed crimes.
Oh. That's it. Yeah, please.
Un autre élément que je voudrais souligner ou mettre en lumière de ma culture, c'est que nous sommes une société matriarcale. Et chez nous, ce sont les femmes qui décident. C'est pourquoi vous n'avez jusqu'à présent peut-être pas rencontré d'hommes Touareg ici. Et l'autre chose, c'est que nous avons notre langue. Parmi les Imaziren, déjà les Touareg sont ceux qui ont le plus conservé leur écriture. Nous avons notre écriture qui date de plusieurs, à peu près de 2000 ans. Et notre langue est très conservée. Nous luttons pour la conserver. Nous avons beaucoup d'orateurs. Cependant, nous avons aussi les mêmes défis aujourd'hui que les autres veuillent spolier la langue, parce qu'il y a l'impact des langues voisines sur notre langue.
Another interesting aspect of our society is that it's a matriarchal society, and women make the decisions, and that's why you haven't seen men Touareg here. We have a language that has been preserved throughout times. It dates back to 2,000 years ago, and we do a lot to protect our language, and we do everything to protect our language because it faces a lot of threats from other languages, from other regions.
Yeah, so you said that the way your people resolve conflicts is through poems. This also means that right now probably there should be a lot of poems recited, because these are not the best of times for your community because of the, you know, the violent conflict in the region. What is the origin of that?
Yeah.
l'origine des poèmes? Pourquoi vous utilisez des poèmes?
C'est une façon plus originale pour nous parce que chez nous le verbe, l'expression orale, la culture a une place très importante. Donc nous, c'est la culture qui est la base de tout ce que nous faisons, et c'est pour ça que nous jugeons que au lieu de nous sommes très rattachés à la culture et très respectueux de la culture. Donc c'est pour ça que nous jugeons que la personne, c'est pire pour lui de l'envoyer en prison ou de le tuer même que de le honnir dans la société, qu'il ne trouve pas sa place dans la société.
Yeah, we do have a very original way of dealing with crime. Culture and oral tradition plays an important part in our society, and culture is the basis of our people. So this is why we use poem as a method to bring people together and not to ostracize someone or put them behind bars. Mm-hmm.
Et ce n'est pas seulement les poèmes, ça peut être des chansons, les chansons des femmes. Ça peut être des morceaux de musique qui sont très très parlants pour les personnes.
It's not just poems, it's also songs and music that really could resonate with people. Mm.
But can you tell something about the current conflicts that are raging in your lands? Because also as a forum member during those past 3 years, I think you really, you know, made it, you know, raised awareness among forum members and also here at the, you know, entire permanent forum about the violent conflicts in your lands. Maybe you can tell a little bit about that.
Alors, le conflit actuel, c'est comme je vous avais dit précédemment en vous présentant notre peuple, il prend ses origines depuis la période coloniale où on a été où notre territoire a été divisé et c'est notre territoire, on était nous-mêmes. Puis là, il y a eu la division et on s'est retrouvés dans d'autres pays qui ne sont pas entièrement les nôtres, et nous nous sommes retrouvés minorisés. Donc, nous sommes devenus des minorités dans ces pays. Donc, ça, c'est l'origine même des mots que nous avons actuellement, c'est la colonisation française. Ensuite, actuellement, il y a également nos ressources naturelles qui sont une des causes pour lesquelles nous vivons ce conflit. Donc, c'est ça.
The root of our conflict dates back to the French colonization period, where we were divided and conquered. And we find ourselves scattered in multiple countries, and we have become a minority in those countries. And the second conflict is over natural resources. We are trying to get respected and to get access to our natural resources.
Do you think that the Permanent Forum can have a role in helping resolve some of these conflicts, especially the ones that are affecting indigenous peoples? And do you think you can have a role, or maybe you already have had a role in somehow also, you know, helping improve the situation?
J'ai beaucoup essayé, comme il l'a mentionné au début, durant mon premier mandat au sein de l'instance permanente, de faire passer des recommandations. Notamment, j'avais l'année passée même au rapport, mais j'avais influencé pour que le thème principal de la 15e session de l'instance permanente porte sur les conflits et leur résolution. Ensuite, j'ai fait passer une recommandation qui n'était pas complètement comme je l'ai voulu, entièrement comme je l'ai voulu, pour que l'instance permanente joue un rôle dans la résolution de conflits. Mais cette recommandation n'étant pas été comme je l'ai voulu, et ça n'a pas apporté beaucoup de fruits. Toutefois, j'ai essayé d'avancer dans sa mise en œuvre. Également, le fait que je sois là, le fait que je plaide beaucoup pour la cause de ma communauté change, même si ce n'est pas comme je le souhaite, parce que moi, j'aime des résultats très rapides. Contrairement à ce qu'ils croient, je suis diplomate posée. Des fois, je veux des résultats très rapides. Donc, je trouve que c'est très lent et que l'instance permanente est très timide quant à ce genre de questions.
During my first mandate, I've made a number of recommendations, and I really pushed as the main theme for the 15th session conflict resolution. Now, I've made that recommendation. It wasn't the way I wanted it to be, and so although the Permanent Forum played a role, because it wasn't really the recommendation that was adopted by the Permanent Forum, it didn't really have a real impact. I also advocate for my own community, and that brings change to some extent. And I do want fast results, fast implementations, and sometimes I think that the Permanent Forum is a bit too shy in speeding up the process.
Okay, well, we are not shy here at the Indigenous Hour. We are very bold with our ideas, but before we go on with the next segment, where we will be talking about more about your personal story and also maybe your ideas for the next year, at least as chair of the forum, maybe we can listen to one more song from your community. And who will that be?
Tinariwen Takal. Tinari Takal.
Dünürü tıkkı
So welcome back to the Indigenous Hour. This is your host Oliver Lauda. Our guest today is Mariam Oleta Bulbacreen, Chair of the Permanent Forum on Indigenous Issues. And now we'll be talking more about you, because I think Indigenous activists and around the world are actually very interested to know who is this new chair. Maybe you can start by telling a little bit about, you know, your, like, where, how, what is the origin, or what is the origin of your activism? Because you have been trained as a physician, so but there must have been something maybe in your childhood or youth that made this switch to human rights possible.
Alors, merci de t'intéresser à mon parcours personnel. Effectivement, je vais revenir un peu sur mon enfance pour expliquer les raisons de mon engagement actuel. Ce n'est pas de la psychanalyse qu'on va faire, mais juste un petit retour dans le passé. Dans le passé, à l'âge de 9 ans, comme vous savez, je vous ai dit que notre peuple a connu plusieurs conflits. Nous sommes au quatrième conflit actuellement. Et quand j'avais 9 ans, il y a eu un conflit au Mali. J'ai été réfugiée en cette période. Mais je n'étais pas une réfugiée qui était dans les camps de réfugiés. Tout ça, heureusement, parce que j'ai pu m'en sortir autrement. Mais je me mettais toujours à la place des autres personnes de ma communauté qui étaient réellement dans des camps de réfugiés et qui ont vécu ça et qui ne peuvent pas s'imaginer d'autres avenirs. Et de plus, ils se retrouvaient de façon récurrente dans cette situation. Donc, malgré que je suis allée, j'ai fait des études en médecine parce que c'est un domaine pour lequel j'avais beaucoup d'attrait. Au cours de mes études de médecine, j'ai fait mes stages dans des pays de différents niveaux économiques. J'ai fait des stages en Algérie, en Suisse et au Mali. Et étant venue de la Suisse au Mali, j'ai été terriblement touchée de voir les inégalités de santé. Et donc, ça c'était au bout de mes études. Et là, je me suis dit, mais je ne suis pas réellement préparée à affronter ce type de médecine parce que il y avait des personnes qui n'avaient pas de quoi s'acheter les soins. Et il y avait des personnes, parce qu'elles étaient autochtones, parce qu'elles étaient Touareg, on les traitait différemment parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes dans le milieu médical qui étaient Touareg comme elles. Donc il y avait une certaine discrimination, une certaine discrimination. Alors je me suis engagée à aller faire de l'action humanitaire, des études en action humanitaire. Et c'est là, avec tout le... au sein de ma famille également, j'ai oublié de le mentionner, on avait ma sœur qui l'a dû rencontrer plusieurs fois, qui est la fondatrice de l'association Tini Inan, qui menait toute l'activité de l'association dans notre maison. Donc depuis que j'étais enfant, je voyais toutes les activités de plaidoyer en faveur des droits des peuples autochtones. Et là, j'ai eu la connexion entre les deux et je me suis... j'ai commencé à m'engager davantage, à prendre de plus en plus mon temps pour cela, au point que maintenant, je passe plus de temps dans le plaidoyer pour les droits des peuples autochtones que sur une table d'examen médical.
Thank you for being interested in my past. Let me go quickly back on my background. And don't worry, I'm not going to go into too many details. This is not going to be a psychoanalysis. When I was 9 years old, there was already 4 conflicts in my region. And we had just finished with one major conflict in Mali. And I became a refugee after that conflict. And I did not end up in a camp, in a refugee camp, thankfully. But I also could emphasize with people who found themselves in refugee camps and had no hope. And oftentimes these people would end up in camp after camp after camp, and there was really no hope for them. So that's, I studied medicine because I had an interest in medicine. And I managed to do some internships in various countries such as Algeria, Switzerland, and Mali. And I really saw the stark difference between these countries of different socioeconomic levels, especially between Swiss and Mali. And I was struck by the inequality in health, healthcare services. And I wasn't prepared to be able to deliver all these healthcare services in these various countries. I've noticed that a lot of indigenous peoples, especially the Tuareg, were being treated differently by the medical community, and they were facing discrimination. So that's when I decided to study
humanitarian action.
And I've also, and I failed to mention this before, but I was inspired by my sister, who launched her own association defending indigenous people's rights. And that really helped me to get involved. And now I'm actually more involved in humanitarian action than I am as a professional, as a medical professional.
Également, la santé a des déterminants. Si je veux changer l'état de santé de mon peuple, il faudrait aussi qu'ils aient tous les déterminants de santé en leur faveur. Il faut qu'ils aient des logements décents, il faut qu'ils aient leurs droits aux services de santé respectés. Et donc, c'est pour cela que je suis là, pour que j'agisse sur les déterminants de santé en vue d'avoir toutes les conditions réunies pour moi de pouvoir travailler dans ce milieu en tant que médecin. Ce n'est pas quelque chose que j'ai abandonné. D'ailleurs, je viens de créer une association pour la santé maternelle et infantile pour ma région.
So, health has a lot of various determinants, and if we want to change the realities or the predicament of indigenous peoples, we have to be working on all these health determinants. And if I want to be an efficient medical provider, I need to be changing all these health determinants. And this is why I've recently launched an association helping maternal and infant health.
What is it called?
Tinhinan Canada.
How has your experience, both professional as a physician and also, you know, this background in humanitarian affairs, how is it going to influence your priorities at the Permanent Forum now during these next 3 years, and especially during the next year as chair of the forum?
Comment mon expérience va influencer? Oui, mon expérience en tant que médecin et en tant que humanitaire influence dans le sens, vous savez, déjà l'instance permanente, on ne décide pas seul. Je suis la présidente, mais l'agenda de l'instance est un élément qui est porté par tous les membres de l'instance. Donc, ce n'est pas forcément ma priorité qui sera la priorité des autres membres. Donc, c'est une décision discutée. Cependant, mon passé de médecin ou mon background de médecin, excusez pour l'anglicisme, va influencer dans le sens où je plaide beaucoup pour les questions de santé au sein de l'instance. Je fais attention à ce que, par exemple, dans les recommandations, toutes les déclarations que j'ai entendues sur les questions de santé ou des questions qui peuvent influencer la santé soient reflétées d'une manière ou d'autre dans le rapport qu'on aura, mais également de façon à ce qu'on puisse les suivre et revenir avec des achèvements réels pour la session prochaine.
Yes, I do have experience as a physician and as a human rights advocate, but the Permanent Forum is not made up of one person. It's made up of a lot of members, and this the forum is guided by consensus. I have a background in healthcare. My objective here is really to to prioritize healthcare. And I've heard a lot of recommendations, a lot of statements made by a lot of people. And my objective is for recommendations on health to be really reflected in the report we want to publish. We also want to make sure that there's a follow-up to these recommendations.
What is the single most important thing that you would like to achieve during your 1 year as a chair?
Une seule chose que je voudrais réaliser, c'est de voir un début d'évaluation de la santé maternelle et infantile pour les peuples autochtones, pas seulement dans une région, parce que d'habitude nous avons seulement le PAHO, l'organisation américaine pour l'Amérique latine et les Américains, qui est notre interlocuteur au niveau du groupe interagence. Mais j'aimerais que ce soit plus large, que ce soit quelque chose qui touche à tous les peuples autochtones dans le monde.
So my real focus here is on maternal and infant health, and I want this to become a priority not just in one region but across the world. We've worked with the interagency group and the intermediary to us, but our objective is to have all of those issues raised in many regions, not just one.
Également, j'aimerais que, parce qu'on a proclamé l'année 2019, année internationale des langues autochtones, et comme il est dit, je n'aimerais pas seulement qu'on ait les spectaculaires, qu'on ait cette année avec des manifestations, mais il faut qu'on ait un agenda clair, et c'est dans nos priorités, pour aussi que cela joue dans la préservation et la revitalisation de nos langues et de nos cultures.
So 2018 will be the theme of 2018 will be indigenous issues, languages, and it's nice to have events and, you know, get-togethers, but what we really need is to have a clear mandate to revitalize indigenous languages.
Finalement, sur les priorités également, un autre élément, peut-être pas pour cette année, mais à moyen terme, c'est aussi de donner la priorité au tourisme autochtone, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas souvent parlé ici et qui est très important. Ça peut être une voie de développement pour les peuples autochtones.
Another goal, and this is more on the long term or medium term, is tourism, indigenous people's tourism. We haven't spoken much about that, but I think tourism could be a key to development for indigenous peoples.
Thank you, Maria, for coming, for sharing so many interesting thoughts with us. And if I may, then I would like to book you already back to the Indigenous Hour a year from now, so that we can then talk about what actually happened and you know, what your experience as chair of the forum was. But in the meantime, I wish you best of luck in your work, and maybe we can listen to one more song by a Tuareg musician, and who will it be this time?
Araten Nada Tamikris.
Thank you.
Merci beaucoup. Thank you. Al Kharadjin. Thank you.
Thank you.